Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin une romancière dont les livres rencontrent un public, pardon, toujours plus grand. Son nouveau livre s'intitule Les Gratitudes. Il est publié chez Lattès et nous sommes très heureux de vous recevoir, Delphine de Vigan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici au micro de France Inter. Les auditeurs pourront dialoguer avec vous dans une dizaine de minutes. Nous sommes très heureux parce que votre livre tranche sur la violence quotidienne qu'on peut rencontrer chez soi ou en bas de chez soi, qu'on peut vivre parfois au travail ou dans la société. Violence telle qu'on peut la rencontrer aussi sur les réseaux sociaux ou la voir à la télévision. Votre livre tranche donc par sa douceur, sa lumière, sa légèreté gracieuse, par la beauté d'âme de ces trois personnages. Je les cite. Mishka, une femme âgée qui quitte son domicile pour une maison de retraite. Marie, sa voisine qu'elle a connue toute petite et qui est un peu devenue sa fille. Jérôme, l'orthophoniste qui va soigner cette dame dans cette maison de retraite. Alors, pour commencer, dites-nous, pourquoi avoir voulu écrire sur la vieillesse? Est-ce parce que c'est un sujet dont on ne sait pas, dont on ne veut pas parler?
Je dirais que j'avais surtout envie d'écrire sur la gratitude, en fait, et que ce livre fait suite à un autre roman qui s'appelle Les Loyautés, qui explore un petit peu ces liens invisibles qui nous unissent. C'est un peu une période en ce moment dans laquelle je suis qui allie à la fois une recherche formelle qui réunit ces deux romans et, en effet, cette exploration finalement des lois souterraines qui sommeillent en nous, qui nous relient les uns aux autres, parfois qui nous enferme d'ailleurs dans certains cas, qui nous empêche. C'était peut-être plus le cas dans le cadre des loyautés. Et là, en ce qui concerne les gratitudes, il y a pour moi quelque chose qui est en effet de l'ordre du partage, qui sans doute implique une forme de
mais
douceur.
Pourquoi la vieillesse également? Pourquoi poser la question de la gratitude dans ce cadre-là?
En fait, plus que la vieillesse, dans un premier temps, c'est la perte du langage qui m'intéresse. Et c'est ça aussi que j'ai exploré dans le roman. C'est l'histoire d'une femme qui perd ses mots. Petit à petit, les mots lui échappent, lui écharpe d'ailleurs, elle dirait, à un moment où elle n'a pas dit un merci. Il y a un merci, elle n'a pas remercié des gens qui ont risqué leur vie pour la sauver. Et cette dette, finalement, est très encombrante, probablement pour elle, au moment où elle sait que la mort est proche et les mots disparaissent.
Comment vous définissez la gratitude ?
En fait, il y aurait mille façons de la définir, et d'ailleurs écrire un livre, c'est tenter d'approcher toutes les formes de gratitude. Peut-être la plus juste et proche du sens étymologique, c'est rendre grâce, en fait. Et pour moi, il y a effectivement cette notion de dette que j'évoquais à l'instant, mais aussi cette notion de partage, parce qu'au fond, dire à quelqu'un voilà ce que tu m'as permis de faire, voilà ce qui s'est passé grâce à toi, voilà ce que grâce à toi j'ai appris, c'est une façon de partager ce moment, cette joie, ce bonheur, cet élan. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on a de moins en moins, de plus en plus de mal à dire merci, à rendre grâce, à dire notre gratitude? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un moment de crise de l'empathie, de la compassion, de dire merci à l'autre, d'avoir peur pour l'autre, comme dit Mishka?
Oui, alors c'est paradoxal parce que peut-être merci est un des mots qu'on emploie le plus souvent dans la journée. On l'emploie mille fois dans la journée.
Mais il ne veut plus rien dire.
Voilà, c'est le même mot qu'on dit merci pour la porte, merci pour le sel et merci de m'avoir sauvé la vie. D'une manière générale, peut-être qu'on a plus de mal aujourd'hui à nommer les choses, qu'on a une sorte de méfiance, de suspicion vis-à-vis des sentiments qui nous habitent comme ça, qu'on est toujours un petit peu d'abord. Exprimer sa gratitude, c'est accepter l'idée qu'on est vulnérable, c'est accepter que l'idée qu'on a besoin de l'autre, qu'on ne fait rien sans l'autre. Alors peut-être que dans une société comme la nôtre qui prône la performance, l'individualisme, l'estime de soi, la rentabilité, c'est compliqué de dire à l'autre, sans toi, je ne serais sans rien. Je ne serais rien, je veux dire.
Alors moi, je vais continuer à tirer ce livre du côté de la vieillesse, Delphine
oui,
de Vigan,
parce que
c'est aussi aussi un sujet, parce que la vieillesse, c'est un grand embarras de mots, à savoir déjà comment caractériser ce moment-là. Michkal dit à son orthophoniste, pourquoi dites-vous les personnes âgées? Vous devriez dire les vieux. C'est bien les vieux, ça a le mérite d'être fier. Vous dites les jeunes, vous ne dites pas les personnes jeunes. Il faut donc décaper en quelque sorte le langage pour accéder à la beauté de ce moment.
Oui, moi ce qui m'intéresse là aussi, c'est d'approcher la vieillesse par le langage. Une autre chose dont elle fait le constat, parce qu'en plus cette Michka, ce personnage est une femme qui a travaillé avec les mots, elle était correctrice,
c'est l'orfèvre,
etc. Ouais. Et donc pour elle, cette perte est d'autant plus douloureuse. Elle se rend compte qu'en fait, quand elle arrive dans cette maison de retraite, tout est petit. On dit un petit goûter, vous allez passer, faire une petite chose. Tout le mot petit revient un petit peu sur tout. Et c'est cet univers très rétréci, très codifié, très contraint au fait. C'est aussi le retour à la collectivité quand on entre en EHPAD. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est la manière dont tout d'un coup la perte d'autonomie rétrécit finalement l'univers. Donc bien sûr, vous avez raison, c'est un livre aussi sur la déchéance physique, sur la peur de vieillir. C'est l'orthophoniste qui dit vieillir, c'est apprendre à perdre.
La phrase essentielle du livre, une des phrases les plus fortes. Vieillir, c'est apprendre à perdre. Et vous listez tout ce qu'on perd chaque jour. La vieillesse, c'est le grand effroi, le grand impensé de nos sociétés, notamment nos sociétés occidentales, des sociétés qui ont le culte de la jeunesse éternelle et qui ont une peur immense de ce qui se passera après. C'est même pas la mort qui fait peur, c'est la vieillesse,
mais
la déchéance.
Oui, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est sans doute ma propre peur de la vieillesse et de ce qu'elle implique, de la manière dont elle se passe aujourd'hui, qui nourrit ce livre. Il suffit, on en a parlé sur vos antennes, tous ces derniers mois. De regarder comment on prend en charge la grande vieillesse aujourd'hui dans nos sociétés. On vit très vieux et en même temps, on est dans un monde où ne pas être rentable pose un très gros problème. Donc je me dis, moi, c'est aujourd'hui, si j'étais très très vieille, peut-être ce qui me hanterait le plus, c'est d'être ce poids qu'on est pour la société. Et d'ailleurs, dans les cauchemars de Michka, c'est ça qui s'incarne. C'est d'une part sa culpabilité, son inconscient, mais au fond, à travers ce personnage de méchante directrice qui est tout à fait fantasmatique, c'est la peur de peser, c'est le poids, ne rien rapporter, coûter. Effectivement, les mots ont leur importance et aujourd'hui, notre place dans la société, elle existe parce qu'on pèse, parce qu'on représente, parce qu'on coûte. Et je crois qu'être vieux aujourd'hui, c'est probablement avant tout être un coût.
Quand Marie imagine sa propre vieillesse, qui lui vient immédiatement à l'esprit, c'est la peur de ne plus être touchée. Expliquez-nous.
Oui, alors ça, c'est probablement ma propre hantise. Effectivement, c'est quelque chose qu'on constate souvent quand on voit des personnes très très vieilles. On se dit, mais qui les touche, qui vous prend dans ses bras? Le corps de la vieillesse, le corps déchu, le corps abîmé, le corps parcheminé, ça fait peur. Je me disais, enfin en tout cas moi, ce qui m'angoisse, je me dis, mais qui me prendra dans ses bras, qui me caressera?
Et on oublie que ces corps-là ont dansé, ces corps-là ont joui, ces corps-là ont mangé, ont vibré,
oui.
Couru, dansé, nagé.
Oui.
On oublie tout ça.
Ouais.
Je vais dire quelques mots encore. Les jours où Michka attend une visite, elle s'habille bien. Elle choisit son pull bleu clair qui fait ressortir la couleur de ses yeux, ou elle met sa veste beige qui est assortie à son pantalon. En quelques mots, vous dites magnifiquement la coquetterie des vieilles dames.
Oui, qu'on observe souvent. Enfin, je pense que quiconque a fréquenté un tant soit peu les EHPAD...
Même en dehors des EHPAD, les vieilles
oui,
dames
c'est vrai,
dans la
c'est
rue.
Vrai, tout à fait.
Qui sont bien coiffées,
oui,
qui
oui,
sont
oui.
bien habillées,
tout à fait,
qui font attention
très...
à leur foulard.
C'est très émouvant. Parfois, on a des mises en plis aux couleurs un petit peu étranges. Ça me touche beaucoup.
L'entrée en maison de retraite, moi je continue à dire maison de retraite, c'est peut-être, je sais pas, une trace de cette gêne à dire la vieillesse. L'entrée dans un EHPAD, pour reprendre le mot qu'on échange depuis le début de cet entretien, est-ce que c'est vraiment le début de la fin? Est-ce que c'est le début du grand toboggan? Ce sont des sujets très difficiles, évidemment.
C'est souvent ce que disent le toboggan, la pente du toboggan est plus ou moins rapide, mais c'est quand même souvent souvent ce qu'on constate, ce que constatent les soignants.
Ce que vous dites dans le livre, la dégringolade spectaculaire quand on rentre en EHPAD, quand on perd son autonomie.
Tout à fait, et on perd aussi le lien. Voilà, c'est encore une fois, c'est le retour à la collectivité avec toutes les contraintes que ça oblige. Mais vous voyez, cette question du langage et de dire les EHPAD ou les maisons de retraite, moi aussi je dis les maisons de retraite. Mmh. Et quand on dit maison de retraite, il y a le mot maison. Quand on dit EHPAD, on rentre tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus institutionnel, de beaucoup plus organisé, de beaucoup plus financier. Pour moi, EHPAD, derrière le mot EHPAD, il y a le mot rentabilité. Alors que maison de retraite, c'est une toute autre connotation.
On passe au standard pour que vous puissiez dialoguer, Delphine de Vigan, avec Josiane pour commencer. Josiane, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Inter. On vous écoute, Josiane.
Je voudrais juste dire ma gratitude à Delphine de Vigan. Elle écrit si merveilleusement bien, pardon, je suis très émue.
Allez-y, Josiane, prenez votre temps.
Ah ben vous. Tous ces livres ont tué un écho en moi. Elle écrit parfois des choses très difficiles, jamais dans le pathos. Et je vais aller acheter la gratitude, je pense, évidemment. La vieillesse arrive. J'ai été confrontée à la vieillesse de mes parents. Et je voudrais juste lui dire merci.
Restez en ligne, Josiane. Je donne tout de suite la parole à Delphine de Vigan.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour ce témoignage. Vous savez, quand on écrit un livre, on est dans la solitude de l'écriture. Le temps de l'écriture n'a rien à voir avec celui de l'actualité, celui qui est le vôtre. Et on n'a jamais idée du moment dans lequel le livre va paraître. Aujourd'hui, je me rends compte, le livre est sorti depuis quelques jours. Je commence à pressentir tout d'un coup l'écho qu'il est en train de trouver, qui est lié à cette époque dans laquelle on vit, probablement, qui est d'une extrême violence. Et moi, j'écris en fait parce que je ne sais rien faire d'autre contre la violence du monde. Et là, j'entends cette dame et j'entends ce qu'elle dit aussi sur mes précédents romans. Et au fond, je me dis, bah, peut-être que j'ai raison de passer tout ce temps derrière mon bureau, avec parfois un grand sentiment d'impuissance, d'inutilité. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre à transmettre au fond que ces valeurs? Qu'est-ce que j'ai d'autre à transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me regarder tous les jours dans la glace? Moi, j'écoute la radio tous les matins, je suis terrifiée et je me sens, mais je pense que les gens d'ailleurs autour de nous se sentent tous dans une impuissance terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on... Voilà, alors peut-être que la littérature peut un tout petit peu par rapport à ça.
C'est Bernard Pivot qui écrivait ça sur votre livre. Il est possible de faire de la bonne littérature avec de bons sentiments. Et peut-être, ou sans doute, avez-vous raison. En tout cas, nous, c'est pour ça aussi qu'on vous a invité ce matin et qu'on vous a donné le grand entretien. Parce que je pense que jamais aucun de vos livres n'a effectivement résonné aussi fort dans le moment dans lequel on vit. Nicolas Demorand a commencé l'entretien en vous parlant de cette période que nous vivons, de ressentiment, de violence, de haine. Et c'est vrai que réhabiliter les mots d'empathie, de solidarité, de gratitude, de dire merci avant de mourir, parce qu'elle voudra dire merci à ceux qui l'ont sauvée pendant la guerre avant de mourir. Je pense que ça, enfin, c'est horrible à dire, mais votre livre ne pouvait pas mieux tomber qu'aujourd'hui.
Oui, en même temps, vous voyez à quel point cette expression « bon sentiment » est suspecte aujourd'hui. Pourquoi ? Comme s'il y avait toujours quelque chose derrière, une compassion un petit peu suspecte, une volonté de rouerie politique, une paresse intellectuelle. Je ne sais pas ce qu'on met derrière tout ça, mais moi, je m'en fous que les sentiments soient bons ou mauvais. Ce qui m'intéresse, ce sont les sentiments, ce sont les sensations, ce sont les souvenirs, c'est le remords, c'est les obsessions, c'est la part d'ombre, la part la plus obscure que nous abrite. L'âme humaine est faite de tout ça, donc je ne m'intéresse pas plus aux bons sentiments qu'aux mauvais. Je m'intéresse à la
grande... Vous a énervé cette phrase de Pivot ?
Non, du tout, parce que je sais, pas du tout, elle m'a fait plaisir parce qu'en plus, je sais à quoi elle fait référence. C'est une pirouette. Et qu'aujourd'hui, peut-être la manière d'ailleurs, enfin, les bons sentiments n'ont sans doute pas la même signification aujourd'hui que celle qui était celle de Gide quand il a prononcé cette phrase. Mais ça m'interroge. Même l'empathie, ce mot qui est devenu tellement à la mode à un moment donné, personne ne parlait d'empathie il y a 20 ans. Et puis tout d'un coup, c'est devenu très à la mode. Et maintenant, parce que c'est tellement à la mode, là aussi, ça redevient suspect. L'empathie, là où, elle aussi, suspecte de mièvrerie, voilà.
Oui, mais... c'est la gamme inférieure des sentiments, un peu cucu, abus et, voilà, alors et que... indignes quasiment oui. D'être éprouvés et encore plus communiqués ou écrits sur une feuille de papier. Josiane, vous êtes encore là ?
Oui, je suis encore là.
Bah, voilà, on voulait vous embrasser et voir si ça allait mieux, Josiane.
Ça va, c'est juste... Voilà, continuez, Madame de Vigan, continuez à nous donner du plaisir avec les mots. Merci. Merci
à vous, merci beaucoup, Josiane. Bonjour, Christiane.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Je voudrais dire à Delphine de Vigan, bonjour, Madame.
Bonjour.
Madame, avec vos mots, vous m'avez appris le verbe. Et le verbe être. J'avais lu avec une émotion sans pareille votre roman « Rien ne s'oppose à la nuit ». Et je vous avais rencontré dans une librairie à Bourg-en-Bresse pour vous dire combien vous m'aviez ouvert une route. Je suis dans une famille, j'ai été dans une famille, et je le suis encore, où le grand pouvoir, c'était celui, comme vous dites, de destruction du verbe et celui du silence. Et j'ai toujours cru que m'exprimer allait détruire cette famille. En fait, j'ai 79 ans. Je n'ai jamais exprimé pour ne pas avoir la guerre, ne pas décevoir et ne pas me montrer telle que j'étais parce que je pensais que ce n'était pas ce qu'elle en attendait. J'ai gâché ma vie à me taire et maintenant je parle. C'est pour ça que je dis que vous m'avez donné le verbe, madame. Mmh. Je vous en remercie parce que les mots ne sont rien s'ils sont dans une gangue de silence et vous avez permis que je rompe cette gangue. Ça n'a pas fait pour autant une grande communication avec la famille. Ça a plutôt étonné que je sois celle qu'ils ne savaient pas. Mais je mourrai libre. Je vous en remercie.
Merci beaucoup, merci. Christiane. Delphine de Vigan.
Merci. Je suis très émue de ce témoignage. Moi aussi, je crois au pouvoir des mots. C'est pour ça que j'écris. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre.
On repart au standard où beaucoup d'auditeurs sont des auditrices ce matin. Delphine de Vigan. Je salue Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. On vous écoute, Isabelle.
Alors moi, j'ai pas vraiment de questions. J'ai mis ma maman en maison de retraite. J'aime pas le mot EHPAD, moi non plus. Je déteste ce mot-là. Elle est rentrée lundi dernier. Donc je suis dans un chagrin qui me submerge. Et voilà, je voulais juste parler de ça, avoir une sorte d'écoute, parce que effectivement, maman a la maladie d'Alzheimer, donc qui a été diagnostiquée cet été, le 23 juillet. Et ça s'est dégradé très très vite, à une allure vertigineuse. Elle a fait une chute le 1er novembre et la chute a encore accéléré le processus.
Et j'imagine, Isabelle, qu'en dépit de ce que vous dites, la décision a été extrêmement difficile pour vous, pour sa fille.
Je n'ai pas de mots, parce qu'en plus, mon frère vit au Canada, mes oncles ne se mêlent pas de tout ça. Donc moi, habitant tout près de maman... c'est moi qui ai eu pendant des mois à constater cette dégradation, les délires successifs, jusqu'à 2 hospitalisations. Et j'ai été seule au pied du mur devant cette décision où tout le corps médical me disait « il faut la placer ». Ça aussi, c'est détestable à entendre. Donc j'ai retardé cette échéance.
Et on y est là.
Jusqu'au moment où je n'ai plus eu le choix. Et quand maman est arrivée de l'hôpital directement lundi dernier... Puisque je suis en première ligne, c'est moi qui prends tout, hein, dans les reproches, etc. Et maman m'a dit, tu as tout manigancé, tu veux te débarrasser de moi. Donc, je suis d'autant plus dans une culpabilité, mais insoutenable, dans les larmes du matin au soir. Donc,
merci voilà. Isabelle, pour votre témoignage et immense courage à vous. Je voudrais donner la parole également à Micheline au Standard d'Inter. Bonjour madame, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je voudrais vous dire que... Mais la vieillesse, c'est une chose pour moi fantastique, merveilleuse.
Ah, génial.
Vous ne pouvez pas vous imaginer.
Dites-nous.
Je me sens tellement plus jeune que quand j'avais 22, 23 ans. La date de naissance, ça ne veut rien dire. Rien du tout. C'est des événements qui nous font notre âge. Vous comprenez? Pourtant, j'ai traversé des épreuves terribles. J'adorais mon fils que j'ai perdu. Mais je sais qu'il continue à vivre. Je suis très croyante. Et là, mais je vis la période la plus extraordinaire de ma vie.
Mais pourquoi?
Je fais des kilomètres en vélo tous les jours. C'est fou.
Et voilà. La vie est belle comme elle ne l'a jamais été, donc.
Mais absolument. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de la vieillesse, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'âge, ça veut rien dire. Je vous assure que quand j'avais 20 ans, j'étais beaucoup plus vieille que maintenant. Vous voyez? Et pourtant, la personne, la Christiane, qui vient de parler avant moi, elle est jeune comparativement à moi. Vous voyez ? Donc, la date de naissance, ça ne veut rien dire du tout, je vous assure. C'est fantastique. Il faut savoir s'émerveiller. Le matin, on se réveille, vous imaginez ? On ouvre la porte, on regarde le ciel, le soleil, même s'il pleut, le vent, tout ça. Mais c'est des richesses, c'est des beautés. Et on ne regarde pas. On a des... Je ne sais pas, on ne sait pas ouvrir les yeux sur la beauté du monde. C'est fou.
Magnifique.
Enfin, la nature, tout ça.
Merci.
Les oiseaux, ça les animaux.
Vous avez fait pleurer Nicolas Demorand, là, je vous signale.
Allez, alors, mais oui, vous m'avez fait pleurer de joie, Micheline.
Ah non, mais écoutez, je vous assure, faut pas. Nicolas, n'ayez pas peur de vieillir. C'est tellement fantastique.
À ce stade de ma vie, Micheline, c'est la plus belle expérience, enfin l'une des plus belles qui m'ait été donnée de vivre.
Delphine de Vigan.
Bah ça fait très plaisir d'entendre ça, bien sûr, bien sûr.
Mais ça veut dire aussi que la littérature, faut pas uniquement la considérer comme quelque chose de un pur jeu formel, un pur jeu par rapport à l'histoire du roman. La littérature aussi, on l'entend chez les auditrices qui prennent la parole ce matin. C'est un savoir qui permet d'avancer, qui permet de se constituer humainement. C'est l'une des fonctions les plus belle, je trouve, de la littérature, non ?
Oui, bah déjà...
C'est un livre de sagesse, ça permet d'aller bien, ça permet de se connaître mieux, non ?
Ça permet peut-être surtout de se mettre à la place de l'autre, en fait. C'est ça le propre de l'écrivain, c'est de donner à voir, à entendre ce qui se passe pour l'autre. Le plus merveilleux, le plus positif, mais aussi le plus sombre et le moins avouable, en fait.
Mmh. Le Salon du Livre ouvre à la fin de la semaine, Delphine de Vigan, vos livres, à vous, se vendent très bien. Mais les ventes de livres, en général, ont chuté de 2% en 2018. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Est-ce que ça vous attriste ? Et puis, la faute à qui ? La faute à quoi ? À Netflix ? À Instagram ? Aux réseaux sociaux ? Ou au fait que les éditeurs publient beaucoup trop de livres ?
Je ne me prononcerai pas aussi de manière aussi pointue. Moi, ce qui me semble faire le plus concurrence aux livres aujourd'hui, c'est le smartphone. C'est le temps qu'on passe sur nos smartphones. En fait, il suffit de prendre le métro. Vous regardez dans le métro, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous voyez des gens qui étaient penchés sur des livres. Aujourd'hui, parfois, moi, j'aurais envie de faire des photos avec mon propre smartphone pour photographier des wagons entiers de gens penchés sur leur smartphone. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils y regardent. Effectivement, probablement les réseaux sociaux, Netflix, etc. Oui, ça, bien sûr, ça m'attriste, mais j'aime à penser que ce sont des mouvements de balancier. Je suis certaine qu'on reviendra au livre.
Oui, et puis il y en a qui y sont encore, quand on pense à nos auditeurs et auditrices ce matin. Merci beaucoup,
merci.
Delphine de Vigan. Merci d'être venue ce matin sur France Inter. Et un merci immense, un merci infini à toutes les auditrices qui ont téléphoné ce matin. Et on embrasse, Léa, on embrasse Micheline, on va demander à ce qu'elle nous
adopte. Elle nous a fait notre lundi.
Voilà, exactement.